Sud Radio Saroul, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et salut tout le monde, merci d'être avec nous comme tous les samedis matins jusqu'à 12h30. Ça roule avec vous et bien sûr avec toi. Salut Gaspard.
Bonjour, bonjour.
Bonjour mon Pierre.
Comment tu vas ma Lolo?
Eh bien merveilleusement bien, dis donc, t'as un rayon de soleil là où tu es dans ta voiture.
Ouais. Ah ben oui, jusqu'au bout, moi je me défends des mesures anti-mobilité que je supporte plus. Alors j'ai décidé que je faisais tout en voiture, je dors dans ma voiture, je vis dans la voiture. Enfin non, trêve de plaisanterie. C'est ça qui est génial avec la magie de la radio, c'est quand on est en plein boulot, eh bien on peut aussi, à côté, continuer à faire sa roule du meilleur endroit du monde, c'est-à-dire au sein de sa voiture pour être au plus proche de vous.
Allez, dans quelques instants, nous allons parler, entre autres, de malus. Vous l'avez entendu, la question, je la pose. Hausse exponentielle des malus auto prévus pour 2021 et 2022. Est-ce vraiment une politique anti-pollution ou est-ce que c'est un impôt déguisé? On va en parler, mon Pierre, parce que alors, les chiffres qu'on nous annonce...
Pour répondre tout de suite ou pas?
Waouh, sont énormes. Laisse un peu de suspense parce que je ne sais pas du tout ce que tu vas répondre.
Impôt.
Et on va en parler avec Fabrice Godefroy, qui est entre autres le monsieur expert mobilité de l'association 40 millions d'automobilistes, que l'on connaît plutôt pas mal, mais on en parlera aussi avec un concessionnaire qui viendra nous dire quelles sont les conséquences qu'il va vivre avec cette hausse exponentielle de ses malus sur les voitures neuves et ce qu'il craint aussi bien sûr pour son business. Et puis vous au 0826 300 300. Autre sujet, mon Pierre, dans la programmation de cette émission Ça roule, c'est la gendarmerie qui a préféré prendre du Seat plutôt que du Renault Mégane. Oups.
Ouais, on était sur des Mégane, hein, Mégane RS notamment, et puis juste avant, c'était la Subaru Impreza, et voilà. Et avant Subaru, d'ailleurs, c'était que des Françaises. Et voilà, Tipa, que le gouvernement choisit lors d'un appel d'offres des Seat Leon groupe Volkswagen, eh ben, après avoir autant tapé sur Volkswagen.
Alors, on expliquera pourquoi.
Mon latin, je ne comprends pas tout. Ou alors je ferai semblant de ne pas tout comprendre et on vous expliquera pourquoi.
Voilà, et puis vous êtes bien sûr les bienvenus. Est-ce que tout part à volo, hein? Si même nos institutions françaises n'achètent plus français, voilà, la question, on va vous la poser, puis on va expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et puis une chose qui t'a beaucoup fait rire, comme beaucoup d'autres personnes, hein, cette fameuse journée sans voiture, un dimanche à Paris, c'était dimanche la semaine dernière.
Hein, pardon, la journée sans piéton, tu veux dire?
Je l'attendais celle-là.
Non, c'est quoi la journée sans voiture? Non, parce que moi j'ai pas vu ça. Alors j'ai vu qu'il y avait pas de voiture effectivement, mais j'ai vu qu'il y avait personne dans la rue. Alors lorsque j'ai communiqué là-dessus, hein, j'ai dit c'est la journée sans piéton. J'ai même cru que Paris était reconfiné. Je me suis demandé ce qui se passait. Et au final, non, on m'a répondu que c'était normal, c'est parce qu'il pleuvait. Donc j'ai cherché à comprendre et j'ai compris parce que d'habitude quand il pleut, il y a quand même du monde à Paris. Ben, je me suis dit que pendant que Paris est en train d'être ghettoisé, c'est un vrai ghetto de bobos écolo, eh bien, je me suis rendu compte que le bobo, lui, il était en sucre. Quand il pleut, il ne sort pas. Il
Ouh là a peur là. De fondre. Où tu vas en faire réagir là? Ben voilà, on en parlera à partir de midi, les journées sans voiture. Et si ça vous arrivait dans votre jolie ville, qu'elle soit de grande ou de petite taille, si votre maire décidait, et si vous êtes même vous-même maire d'une ville, est-ce que vous allez décider de mettre des journées sans voiture un dimanche, une fois, deux fois, dix fois par an? Est-ce que tout ça n'est pas évidemment un grand foutage de... Je ne dirai pas le mot. Allez, 0826 300 300, vous pouvez bien sûr vous inscrire dès maintenant ou réagir sur la page Facebook de Sud Radio, mais également sur le Twitter, @sudradio, on vous y attend tous les jours. Allez, tout de suite, coup de cœur, coup de gueule, c'est parti. Gaspard.
Alors moi, ça va être un coup de gueule pour ce samedi matin, avec notamment en fait les conducteurs de motos. Vous savez, ces motards qui conduisent sans casque, alors souvent des jeunes et qui font des figures. Alors c'était un phénomène qui où il y avait beaucoup comme des villes comme Marseille, Nice, et il y a de plus en plus de conducteurs qui font ça maintenant sur le périph parisien. Et moi, la semaine dernière, il y en avait deux jeunes qui étaient sur une motocross. Alors c'était même pas une grande motocross, c'était une motocross moyenne, sans casque, et il y en a, ils ont fait une roue avant, il y en a un qui est tombé juste devant moi et j'ai freiné à un mètre quoi. Donc heureusement, on l'avait vu un peu de loin, donc on faisait attention, mais une minute d'inattention et on lui rentrait dedans quoi.
Tu l'écrasais.
Ouais.
Pierre, cœur ou gueule toi?
Non mais de toute façon, il y a un vrai problème. Vrai problème de comportement. Moi j'ai un vrai coup de cœur, Lance.
Ah, c'est pour moi. Depuis le temps que tu devais me le dire.
Ouais, alors c'est une vraie déclaration. Non, mais c'est moi, mon coup de cœur, il va concerner toutes les villes qui essayent de faire comme Paris. Toutes ces villes dans lesquelles je rêve d'habiter, hein, surtout depuis les dernières élections municipales, je pense à Bordeaux, à Grenoble, Lyon, toutes ces jolies villes qui ont la chance d'avoir un maire écologiste à la tête de leur ville et qui aujourd'hui ont testé la journée sans piétons. Oui, j'en parlais un peu en introduction, mais la réflexion que je me suis fait, évidemment, c'est de me dire que les grandes villes maintenant commencent à se ghettoiser. Un ghetto, c'est quoi ? C'est un rassemblement communautaire. Et là, on a un rassemblement communautaire d'écologistes fondamentalistes qui aujourd'hui interdisent l'accès dans leur ville à ceux qui possèdent une voiture. C'est de la vraie ségrégation spatiale et j'ai l'impression que dans les territoires oubliés de la République au sens de ce qu'elle est noble, le partage, là où tout le monde peut aller, eh bien je vais mettre au plus haut point la ville de Paris qui a fait cette journée sans voiture absolument grotesque où il n'y avait plus personne à l'intérieur. Voilà ma Lolo, donc c'est mon coup de gueule évidemment de la semaine. Il considère toutes ces mesures dites écolo, mais qui en fait sont des mesures de ségrégation envers ceux qui ont besoin ou qui auraient eu envie d'aller dans la ville. Voilà.
Et ben moi, ça va être un coup de cœur et puis je finirai par un tout petit coup de gueule, et je finirai par un petit coup de cœur. Mon coup de gueule, c'est ce qui s'est passé sur cette fameuse journée sans voiture à Paris où une femme a été coincée dans son ascenseur et où a refusé l'accès du dépanneur sous prétexte que c'était effectivement la journée sans voiture. Donc le dépanneur n'a pas pu accéder à l'immeuble. La personne est restée coincée plus de 2 heures. Une chance qu'elle n'était pas trop agoraphobe et qu'elle n'a pas fait un malaise, mais je trouve ça honteux. Claustrophobe, pardon, agoraphobe, c'est la foule, pardon, merci mon Max. Je trouve ça honteux que... Alors, je ne veux pas attaquer les forces de police et les gens qui géraient les entrées ou non dans Paris, mais il y a un moment, quand il y a des urgences, c'est comme si ils avaient empêché une femme d'aller accoucher à l'hôpital, quoi. Il faut peut-être faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Voilà, moi, ça m'a particulièrement énervée. Et puis, par contre, je voudrais finir sur un coup de cœur. Vous voulez bien, j'ai encore le temps. Vous savez qu'on fête en 2020 les 30 ans de la ceinture de sécurité obligatoire. Voilà. Alors, il y a un double coup dans mon petit message. Coup de cœur, parce que ça fait 30 ans qu'elle sauve des vies. Je vous rappelle que dans les années 70, on était à plus de 18 000. Évidemment, aujourd'hui, on est un petit peu plus de 3 000. Toi, tu as les chiffres exacts. Ça ne suffit pas. Et bien sûr qu'on aimerait qu'il n'y en ait plus du tout. Alors, ça a sauvé des vies. Mais attention, parce que dans les 3 et quelques 000 personnes, malheureusement, qui ont encore perdu la vie l'année dernière pour la voiture, 22% des décès sont dus, entre autres, à ne pas avoir attaché sa ceinture. 22% de ces chiffres-là. Donc, coup de cœur, parce qu'on fête quand même quelque chose qui nous a sans doute sauvé la vie. Et coup de gueule pour ceux qui ne la mettent pas, s'il vous plaît. Vous connaissez, tu te rappelles cette pub, Pierre ? Un petit clic vaut mieux qu'une grande claque ?
Ouais, ouais, ouais.
Tu te souviens de ça ?
Non, mais la ceinture de sécurité, il n'y a plus de débat. Mais quand je sais qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 10 qui est mal attaché et qui peut décéder de cela, je me dis, faites attention aussi, protéger les gamins, parce qu'eux, ils n'ont pas choisi, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, gros coup de cœur, on fête les 30 ans de l'obligation. Elle a été inventée avant. Elle est devenue obligatoire en 90. Mais coup de gueule pour ceux qui ne mettent pas encore leur ceinture de sécurité. Ben voilà, 22% des morts sur la route sont sans ceinture de sécurité. J'espère que ça vous fait réfléchir un peu et que vous qui écoutez Sud Radio ce matin, là, vous allez prendre la voiture, vous mettez votre ceinture. Alors, une ceinture, tiens, d'ailleurs, qui va coûter de plus en plus cher. Et tu vas comprendre pourquoi. La loi de finances pour 2021 est tombée en ce début de semaine. Et devinez quoi ? Les vaches à lait que nous sommes, nous, les automobilistes, vont encore devoir mettre la main à la poche, surtout si vous voulez acheter une voiture neuve. Des malus qui vont augmenter sur 2 ans. Un exemple, vous voulez une Peugeot 3008, 1,2 PureTech, la 130 ? Ça, c'est une voiture quand même. Aujourd'hui, vous payez 330 € de malus. L'année prochaine, 818. En 2022, 1629. Tu veux un autre exemple ?
C'est vous vouliez une voiture.
C'est fini. J'ai un autre exemple à te donner d'une marque qu'on aime beaucoup. Allez, dans sa roule, c'est la Honda. Honda Civic, la X, la Type R 320. Ancien malus aujourd'hui, elle a quand même 8671 €. Eh bien, en 2022, vous allez payer 16 810 € de malus. Et puis alors, chiffre.
Et la Fiat Multipla.
Et puis, ils ont arrêté.
Le chiffre quand même, qui est quand même assez incroyable, hein, c'est la Ferrari F8 en tributo qui, attention, en 2022, vous serez à 50 000 € de malus. En 2021, 40 000 € de malus. Alors oui, je pose cette question. Oui, cette hausse exponentielle des malus, c'est-à-dire que même les plus petites voitures vont y aller, vont être touchées. Hein. Il n'y a pas besoin d'être super riche pour payer un malus maintenant. Est-ce vraiment une politique anti-pollution ou est-ce que c'est un impôt déguisé ? On va en parler avec Fabrice Godefroy, qui est expert modélité pour 40 millions d'automobilistes. Et également avec Philippe Fournier, qui est concessionnaire et qui viendra nous donner son avis sur ces hausses annoncées. A tout de suite, 0822. 6 300 300, on vous attend.
Sud Radio, ça roule.
Ouh, aïe, aïe, ouh, on va avoir mal. Ouh là 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 là. Acheter une voiture neuve dans les années qui arrivent, c'est-à-dire 2021 ou 2022, eh ben là là, il va falloir en avoir des sous, parce que le malus annoncé sur la loi des finances, Pierre, ça fait mal.
Ouais, ou alors il va falloir avoir de l'humour si vous souhaitez acheter une voiture lorsque vous entrez dans une concession automobile, parce que oui, le malus se durcit. Alors non, c'est vrai que le gouvernement a rejeté la taxe sur le poids qui était demandée par les écologistes, mais en même temps, eh bien, ils viennent de créer un impôt supplémentaire, et pourtant Monsieur Macron avait prévu le contraire, c'est l'augmentation du barème, du malus, et surtout la diminution du bonus. Et il va falloir en parler aussi, parce que la diminution du bonus, elle est quand même très forte, hein, Malolo.
Oui, exactement. On va en parler en détail de ce malus qui est annoncé sur deux ans, hein, une grosse augmentation en 2021, une autre grosse augmentation en 2022. Avant de donner la parole à notre expert et invité que nous allons évidemment accueillir dès maintenant, Fabrice Godefroy, bonjour.
Bonjour.
Expert mobilité pour 40 millions d'automobilistes. Je voudrais qu'on vous accueille, vous, puisque vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. Et c'est Claude qui est avec nous. Bonjour Claude. Claude ?
Oui, je vous écoute.
Oui, bonjour, vous êtes à Pessac.
Oui, exactement.
Alors Claude, la question que je posais, hein, selon vous, cette hausse exponentielle du malus 2021-2022, est-ce que c'est vraiment une vraie politique anti-pollution ou est-ce que c'est un impôt déguisé ? Vous vous en pensez quoi ?
Alors ces mêmes gens qui sont du gouvernement très écologistes, donc ont passé des accords avec le Canada pour faire venir des tankers énormes qui font une pollution maximale, d'une part. D'autre part, ils se permettent d'aller au chevet de l'entreprise comme Bridgestone ou avant Ford. Les mêmes versent des larmes de crocodile pour ensuite saccager toute la filière automobile. On appelle ça
Oui. Claude, vous avez vu que chez Bridgestone, en fait, ce qu'a préconisé Bridgestone, c'était de fabriquer des pneus plus gros, plus sur lesquels ils margent beaucoup plus, et des pneus notamment de SUV. Et en France, les SUV, on veut les interdire. J'ai l'impression qu'on est un peu schizophrène quand même en France.
Mais on appelle ça des pompiers pyromanes.
Ouais, c'est ça. Claude, j'aimerais juste vous poser une question également. Est-ce que demain, si vous deviez acheter une voiture, vous allez donc, à cause de ces malus, privilégier l'occasion ou vous allez rester sur les voitures neuves ?
Oui, mais moi, malheureusement, heureusement, je suis un écologiste né, puisque j'ai acheté une hybride.
L'hybride, attention, on baisse le bonus sur l'hybride rechargeable.
Et l'électrique.
Et de toute... Et le bonus qui n'était pas et l'hybride qui n'est pas rechargeable type Honda, Toyota et qui sont pourtant des super voitures, zéro bonus, zéro bonus.
Rien.
Donc ils peuvent même éventuellement tomber sous le coup potentiellement d'un malus. Mmh. C'est hallucinant.
Alors on va donner la parole à notre invité. Merci beaucoup Claude d'être intervenu.
Merci.
Passez un bon week-end. Vous aussi, hein, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Est-ce que vous allez acheter une voiture neuve ou est-ce que vous allez vous tourner vers de l'occasion à la vue de ces malus qui sont hors de prix? Qu'en pensez-vous d'ailleurs de cette politique? Vous nous rejoignez, puis vous réagissez également sur Twitter, où l'on vous propose ce sondage sur les malus. Donc n'hésitez pas à nous donner. Nouveau malus auto, êtes-vous prêt à payer 1 629 € de plus pour acheter une Peugeot 3008 par exemple? On attend vos réponses sur Twitter, @sudradio. Philippe Godefroy.
Fabrice.
Parce qu'on aura Philippe Fournier
mix,
tout à l'heure.
C'est un mix des deux.
Fabrice Godefroy, vous êtes un expert mobilité. Alors là, vous connaissez le sujet, mais alors...
J'ai essayé de me plonger pas mal dessus, tout à fait.
Alors, concrètement ?
Alors déjà, en ce qui concerne le bonus, il était que sur l'électrique et l'hybride rechargeable. Donc, ce qui était intéressant quand même de savoir, c'est qu'on avait 7 000 € sur le 100% électrique. On va passer l'année prochaine à 6 000 €, donc une baisse. Et l'année d'après, en 2022, on sera à 5 000. Donc, vraiment une baisse de 1 000 € sur les véhicules électriques. Et sur l'hybride rechargeable, on était à 2 000 € de bonus aujourd'hui et on sera plus qu'à 1 000 € en 2021. Donc c'est véritablement une baisse. Le bonus est en train de fondre. Et par contre, effectivement, en parallèle,
le malus
va exploser. Mais quand je dis exploser, c'est vraiment exploser. Déjà, le seuil de déclenchement qui était à 138 grammes, il va être en 2021 à 131 grammes.
Rappelons ce seuil de 138 grammes au kilomètre de CO2. Rappelons ce que c'est exactement, parce que des fois, ça peut être un peu fou.
Alors, il y a un périmètre, en fait, sur lequel on n'a pas de malus. Et là, il y aura de plus en plus de véhicules qui seront éligibles au malus. Et on commence à avoir un malus à partir des 138 grammes cette année.
C'est ce que rejette le moteur. C'est
tout
ça
à fait.
Je...
Tout c'est 138 grammes par kilomètre.
Voilà,
de CO2 par kilomètre.
D'accord. Mais en fait, Fabrice, pour être très clair,
Ça veut tout simplement dire que déjà aujourd'hui, c'est compliqué, mais demain, plus aucun véhicule neuf à essence ne bénéficiera d'un bonus.
Ah bah, et ça, tout ce qui est thermique, c'est sûr que ça va être en entonnoir, parce qu'en fait, il y a un glissement en fait du... Ce qui est intéressant, effectivement, c'est les seuils d'éligibilité, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un glissement du seuil de 7 grammes tous les ans. Donc en fait, on arrive sur un entonnoir, et de plus en plus, tous les véhicules vont être éligibles non seulement à un malus, et en plus à un malus de plus en plus gros. Et puis en plus de ça, pour en finir avec ce malus, il y a une explosion du plafond. Je rappelle quand même qu'en 2019, on était à 10 500 au plafond fond de malus maximum. En 2020, donc cette année, on est à 20 000, donc c'était quand même le double. Oh. Et en 2021, on passe à 40 000 maximum. Et en 2022, on sait déjà qu'on sera à 50 000 euros. Oh. Ce qui veut dire que certains véhicules auront plus de malus que le prix du tarif du véhicule. Je prends une Ford Mustang, par exemple, c'est un peu un exemple qui est frappant. Je sais que tout le monde ne peut pas acheter un véhicule, une Ford Mustang, mais elle vaut 48 800 au tarif.
Donc, c'est pas si excessif que ça.
Enfin, tout à fait.
Ça reste
mais
une somme,
quand on rajoute pas... le malus en 2021, ça sera 88 000 euros.
Mais c'est ça qui est dingue.
Et quand on sera en 2022, il y aura plus de malus que la valeur du véhicule. Et alors ça, effectivement, c'est un exemple qui est frappant. Mais comme tout ça va tomber chaque année en glissant de 7 grammes à 8 grammes tous les ans, de plus en plus, tous les véhicules vont être concernés.
C'est
ça qui est fou.
Il n'y a pas un véhicule diesel qui ne va pas être concerné parce que les rejets sont tout petits.
Au début, si.
Ouais, alors le diesel, effectivement.
Certains diesels ne seront pas concernés.
Alors, ça sera plus favorable. Je pense que la plupart des véhicules, malheureusement thermiques, vont être concernés.
Et tant mieux. Hein.
Mais le diesel, effectivement, a un côté plus favorable là-dessus parce qu'il y a un décalage de 20% avec l'essence sur le taux de CO2. Donc, c'est sûr que ceux qui vont être le plus touchés, c'est les 100% essence.
Ça, c'est évident.
Par exemple, je prends le Duster. Le Duster, on va prendre un exemple.
Juste pour finir sur ce diesel, parce que je trouve ça quand même juste aberrant, Pierre, c'est qu'on tape sur le diesel. Il y a un dieselgate depuis des années, au point de tuer une filière. Ouais. Et ben, c'est pas qu'on l'encourage, parce que moi, je suis pour. Je veux dire, le diesel est de plus en plus propre. Il faut arrêter les bêtises. Il faut mettre un petit peu. Il faut arrêter de marcher sur la tête.
C'est les paradoxes.
C'est des paradoxes de ouf.
Et le paradoxe, par exemple, de la Mustang. La Mustang, comme je l'ai dit, un malus de 40 000 et bientôt 50 000 euros. Par contre, une vignette critère 1. Donc, bienvenue dans les centres-villes. Donc, vous voyez, les paradoxes sont extraordinaires.
Donc, ça prouve bien qu'il marche sur la tête, Pierre.
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que plus tu payes, plus tu as le droit de rouler. En fait, c'est aussi simple que ça. Les vignettes de critères qui nous permettent l'éligibilité pour rouler dans les grandes villes comme à Paris. Eh bien, tous les véhicules neufs bénéficient aujourd'hui d'une vignette critère 1. Ça veut donc dire quoi ? Si on a les moyens de payer cher et de payer les malus, on fait ce qu'on veut et on roule où l'on veut. Alors, ça veut dire que le gouvernement est schizophrène, pompier pyromane, tout ce qu'on veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Par contre, tuer une bagnole.
Ça veut dire autre chose. Au-delà du marché de l'occasion qui va exploser, ça veut dire qu'acheter une voiture neuve va devenir uniquement pour les très riches. Ça va devenir socialement... Non, mais tu vois, Pierre, ce que je veux dire, c'est que socialement, ça va devenir une nouvelle différenciation.
Ça se voit dans les chiffres. Hein, ça se voit dans les chiffres, déjà.
Oui. Si le marché du véhicule d'occasion est en tension parce qu'il y a de plus en plus de demandes et parce que les gens ont acheté leur véhicule neuf plus cher, qu'est-ce que va faire le prix moyen du véhicule d'occasion?
Il va augmenter.
Il faudra bien acheter le malus.
Oui, mais pas en 2021, si tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, moi, demain, je veux racheter une voiture en 2021, je vais me tourner obligatoirement vers l'occasion parce que je ne peux pas payer 10 000 euros ou même 2000 euros de mal. 2000 euros, c'est une option de sécurité sur ma bagnole.
Je pense qu'on en parlera avec Philippe, mais je pense qu'il y aura même des effets d'aubaine par rapport à ça. Ça, c'est une évidence, parce qu'il y a évidemment des véhicules qui seront moins chers en 2020 qu'en 2021, et il faudra bien répercuter un moment ou un autre des malus. C'est une évidence.
On est d'accord, on va accueillir Philippe Fournier, qui est concessionnaire dans le sud de l'Île-de-France, où l'on écoute Sud Radio sur 99.9. Mais il y a plein d'autres questions, et excusez-moi de brainstormer avec vous en direct sur ce coup-là. Et vous êtes les bienvenus, 0826 300 300, venez nous dire ce que vous en pensez de cette hausse des malus qui vont créer que la voiture neuve, enfin qui va créer en tout cas que les voitures neuves ne seront plus accessibles à personne. Plus on avance dans les voitures aujourd'hui qui technologiquement sont plus au point, au niveau sécurité sont plus au point, et bien ça veut dire que plus on sera pauvre, ou moins on aura les moyens d'acheter une voiture neuve, plus on prendra des risques sur la route. C'est-à-dire que les voitures neuves vont être réservées à une élite financière, et donc les sécurités vont aussi être réservées à une élite financière. Et sous prétexte de politique pollution, je trouve ça mais aberrant. Enfin bon, voilà, ça m'énerve.
Juste un chiffre quand même pour se remettre dans le contexte. On vend 2,5 fois plus de véhicules d'occasion de véhicules neufs déjà aujourd'hui. Donc ce phénomène, évidemment, va s'accentuer, c'est une évidence.
Et après, on aura du Mad Max sur les routes, quoi. Voilà.
Bon, alors, Philippe Fournier, comment il va ?
Bonjour à tous. Bonjour, Laurence, Pierre, Gaspard, bonjour nos auditeurs.
Philippe, on va être très honnête avant de vous accueillir dans quelques minutes. Voilà. On va mettre l'eau à la bouche à tout le monde. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez mis votre concession automobile en vente pour le transformer en petite supérette bio?
Non, non, je reste concessionnaire automobile.
On accueille Philippe Fournier dans quelques instants. Effectivement, il est concessionnaire auto. Et puis, nous aurons également Laurent qui nous appelle de Montpellier au 0826-300-300 pour nous donner son avis. Cette question, je vous la rappelle, hein, êtes-vous prêt à acheter une voiture neuve en 2021 ou est-ce que vous allez revoir votre copie à cause de ces hausses vraiment exceptionnelles du malus auto prévu pour 2021-2022? Je vous rappelle, hein, l'exemple de la voiture la plus vendue en France d'ailleurs, qui recrée des emplois à Sochaux dans l'usine Peugeot, c'est la 3008. Oui, Peugeot, qui a tellement bien vendu sa voiture, recrée des emplois, et ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bien la Peugeot 3008 PureTech 130 va, elle, être malussée de 818 euros en plus en 2021 et de 1629 euros en plus en 2022. Vous en pensez quoi tout ça?
En fait, tout ce que le coronavirus n'aura pas flingué, les écologistes vont s'en charger.
0826 300 300.
Sud Radio, ça roule.
Eh oui, vous l'avez entendu, hein, c'est tombé il y a de cela quelques jours. La loi de finances pour 2021 prévoit des malus incroyables sur l'automobile en raison effectivement des grammages de CO2 au kilomètre. Eh bien, nous allons payer plus en plus cher nos voitures avec des malus. Alors vous allez vous peut-être nous dire, c'est normal, vous polluez, de toute façon, les voitures, plus elles ont de chevaux, plus elles polluent. Alors moi, ça m'est égal que celui qui va acheter une Ferrari Tributo paiera 50 000 euros de malus en 2021. Parce que de toute façon, il paye déjà 200 000 euros une voiture, alors il a les moyens. Stop, on arrête, parce que c'est évidemment, à mon avis, il faut d'abord arrêter de se diviser les uns les autres. Et on en parle de ces malus avec toi, Pierre, bien sûr, mais avec nos deux invités. Fabrice Godefroy, qui est aujourd'hui l'expert mobilité de l'association 40 millions d'automobilistes, bien sûr. Et Philippe Fournier, que nous avons présenté. Philippe Fournier, concessionnaire Hyundai, juste avant la pause. Bonjour, monsieur Fournier.
Bonjour, bonjour. Je range mon frein à Laurence depuis tout à l'heure. Je crois qu'on a au moins une unanimité, c'est qu'on est tous très énervés. Ça, il n'y a pas de débat. Là,
Alors, mon cher Philippe,
sur ça, oui.
Alors,
mon cher Philippe, comment ça va se passer, la mise en place du malus? Vous l'accueillez comment? Comment vous avez reçu cette nouvelle en concession?
Le premier point fondamental, c'est la violence de l'annonce.
Bah, ouais.
C'est la violence. Parce que Fabrice l'évoquait, on parle de sommes très, très, très conséquentes et pas de réactivité possible pour personne. On parle d'une échéance à 3 mois. Mmh. Donc, la vraie problématique, on peut supposer un aspect vertueux, donner des tendances aux constructeurs pour améliorer les technologies, pour baisser les niveaux de pollution. Il y a pas de débat. Enfin, je connais personne qui est content de voir son pot d'échappement émettre le plus possible.
Évidemment.
Donc, sur le sujet, il n'y a pas de débat. Si on tend vers le mieux, c'est que positif. Par contre, en 3 mois, on ne peut pas avoir une réactivité sans déstabiliser tout un ensemble de paramètres. Comme il a été dit, qui va payer la note? Bien évidemment, in fine, l'automobiliste. Et comme l'automobiliste ne voudra ou ne pourra pas, parce que ça a été aussi dit, payer cette note de façon aussi conséquente, eh bien oui, ça va déstabiliser toute la filière automobile, et ce, pendant un moment, on ne connaît pas l'échéance, mais pendant un moment suffisamment long, le temps que les technologies prennent le relais, parce que les technologies interviennent derrière. Mais in fine, l'automobiliste va payer la note, un, par le surcroît de malus, deux, par le surcroît technique et technologique qui sera mis en œuvre pour baisser les niveaux de pollution. Parce que on parlait tout à l'heure, même sur un petit véhicule, on est déjà à des niveaux de pollution aux alentours de 110, 120, 130. On sait les faire baisser plus rapidement. On va mettre de micro-hybride ou de l'hybride, mais ça a un coût, cette mise en place. Pour des véhicules qui vont faire combien? 4000, 5000 km à l'année. Laurence rappelait, est-ce qu'il vaut pas mieux une reconnaissance de piéton où la voiture s'arrête si on a une attention?
Enfin, évidemment.
Donc il y a un ensemble de paramètres et des incohérences totales. Fabrice évoquait le cas anecdotique de la Ford Mustang. Et si on va juste à ça, la personne qui achète une Ford Mustang, fût-elle économiquement sans problème, c'est pas pour faire 40 000 km à l'année. C'est une voiture coup de cœur, de balade, etc. Donc, mais on va parler des gens qui travaillent, qui sont obligés de traquer.
Bah, évidemment.
Comment,
comment on traque et puis une Philippe... remorque de 2 tonnes, 3 tonnes avec un véhicule qui va émettre moins de 100 grammes de CO2 avec un 1 litre sans chevaux actuellement. Je vous mets au défi de pouvoir traquer une remorque de 2 tonnes et demie.
Pierre, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que aujourd'hui les voitures sont déjà chères. Enfin, on a déjà des prix qui sont conséquents. Il y avait toutes les nouvelles technologies, ça a un coût. On va pas pouvoir. Il y a plein de Français de gens qui pourront plus acheter de voitures neuves, quoi.
Lolo, une voiture, elle tracte un certain poids et elle émet des pollutions en fonction du poids qu'elle tracte. C'est-à-dire que avec tous les équipements de sécurité ajoute sur les autos, et tant mieux, mais ces véhicules sont bourrés d'options et d'options qui sauvent des vies sont plus lourds, donc ils émettent davantage et ils sont taxés davantage. C'est du délire.
Moi, je suis d'accord. Fabrice Godefroy, réaction à ce que dit Philippe, et après on accueille Laurent qui nous appelle de Montpellier.
Il parlait justement des efforts qui ont été faits par les constructeurs et par les concessionnaires. Ils sont déjà présents. Je rappelle quand même que l'objectif pour les constructeurs, c'est 95 grammes de CO2 justement par kilomètre en moyenne au niveau des ventes cette année.
Ça correspond à quel type de voiture, ça?
Alors c'est la moyenne pour l'ensemble de leur flotte. Et il faut quand même se rappeler quand même que l'année dernière on était à 110 grammes. Ouais. Donc les objectifs de 95 grammes, ils y sont pas trop loin. Quand on voit les chiffres du CCFA qui sortent tous les mois, on voit que cette année, on est à peu près en moyenne à 97-98. Donc tout le monde a fait les efforts, les constructeurs avec des systèmes de dépollution qui ont fait que ça a largement baissé cette année, et les vendeurs, les concessionnaires ont joué le jeu en vendant justement un mix au niveau de leur voiture pour justement avoir cette baisse au niveau des CO2. Et ils vont être récompensés à double jeu, c'est-à-dire qu'on va leur mettre des objectifs encore plus forts les années prochaines, hein, c'est ce qui a déjà été annoncé, et en plus de ça, on va les freiner avec des malus délirants qui vont faire que ça va être de plus en plus compliqué de faire leur métier de vendre des voitures.
Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Est-ce qu'on est en train de nous préparer autre chose ? Parce que là, il y a eu la période de l'électricité, on est en plein dedans, mais est-ce qu'on n'est pas en train de préparer le terrain pour d'autres motorisations ? L'hydrogène, on va pousser l'hydrogène à fond à un moment, même si on n'est pas prêt.
L'hydrogène, pour l'instant, n'est pas prêt. Mais même le véhicule électrique, on en a parlé tout à l'heure, même le véhicule électrique, on est en train de baisser le bonus. Alors, je sais qu'il a dit, Bruno Le Maire, ça y est, c'est largement parti, le véhicule électrique 100% électrique, on va être cette année entre 5 et 6%. Évidemment, c'est 3-4 fois plus que les autres années, mais il faut voir pourquoi. Parce qu'il y a eu des subventions énormes, on a fait une publicité à fond la caisse là-dessus, les concessionnaires se sont concentrés énormément là-dessus. Bon, c'est 5-6% des ventes,
Fabrice,
c'est bien.
Fabrice, il faut remettre l'église au cœur du village. Au centre du village. Aujourd'hui, certaines utilisations de l'automobile en centre urbain ou proche banlieue d'agglomération peuvent être totalement compatibles avec une utilisation de véhicules électriques. Je te mets au défi, parce qu'on a beaucoup d'exemples, d'utiliser un véhicule électrique sur du long parcours. C'est la cata. Un client, moi, dernièrement, Paris, Bordeaux, 39 heures.
39 heures.
39 heures, Philippe. Et
L'électrique est condamné par lui-même pour l'instant, par l'État lui-même, parce qu'après l'avoir poussé, ils vont réduire à peau de chagrin le bonus. Ouais. S'il n'y a plus de bonus pour soutenir la filière électrique,
c'est
qu'en plus,
et vous voulez parler des bornes aussi
bientôt sur le plein de l'électrique, parce que le plein du véhicule électrique sur la route vous coûte le même prix que le plein d'essence.
C'est pour ça que je me demande
où est l'intérêt.
Non, mais c'est pour ça que je me demande s'il y a pas il y a quelque chose. Alors c'est pas, je suis pas du tout dans la théorie du complot. Vous savez que c'est pas du tout ma façon de fonctionner, mais je me dis pourquoi est-ce que maintenant on est en train de tout doucement de se détacher de l'électrique. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer ?
Nous pousser vers le vélo.
Laurent de Montpellier est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Votre réaction à ces malus-là qui nous écrasent là pour le coup
Alors moi je pense que j'espère que l'intelligence des concessionnaires va bien fonctionner et qu'ils puissent nous vendre des véhicules d'occasion, mais qui sont en réalité neufs. C'est-à-dire qu'ils sont déjà immatriculés en concession.
Attendez, laissez finir Laurent, Philippe Fournier, parce que vous êtes concessionnaire, je vais vous donner la parole, mais allez au bout de votre idée, Laurent.
Voilà, c'est-à-dire un véhicule sorti d'usine serait immatriculé par le concessionnaire lui-même. Bon, c'est une idée qui m'est venue comme ça, bien évidemment, à voir. Et elle serait vendue ensuite en concession, avec un faible kilométrage, bien sûr, mais d'occasion. Et alors, et non, mais bien sûr que non, mais enfin, je parle d'intelligence alors, du concessionnaire.
Mais non, mais Laurent, ce n'est pas possible. C'est, en fait, le malus, quelqu'un doit le payer. Si ce n'est pas l'automobiliste, ce sera le concessionnaire.
Ouais. Mais
le concessionnaire, s'il s'acquitte du malus, il va le répercuter
alors,
sur l'automobile.
Je voudrais écouter, Philippe, excusez-moi, messieurs, je voudrais écouter le seul concessionnaire de cette émission, Philippe Fournier.
Oui, je vais répondre à Laurent. On parle là d'effet d'aubaine éventuellement. D'un infime pourcentage de ce qui va s'immatriculer sur l'année 2021. Donc, oui, il pourra y avoir quelques effets d'aubaine. On va immatriculer des véhicules qui potentiellement seront très malusés l'année prochaine, un petit peu en amont, même si on n'est pas, c'est vous qui jugerez, messieurs et madame les consommateurs, mais on a quand même un degré de pertinence et on fera cet élément-là, Laurent, ça c'est sûr. Mais on parle d'éléments à la marge. Ouais. Une fois que ces véhicules auront été revendus, vous parliez d'effet d'aubaine sur le marché de véhicules d'occasion, possiblement, mais il sera limité cet effet d'aubaine. Et qu'est-ce que ça peut créer? On va au bout du bout. Moi, j'ai une voiture qui est fortement émettrice. J'ai l'habitude ou le besoin de rouler avec des grosses motorisations. Eh ben, je vais peut-être réparer ma voiture et la laisser vieillir dans le temps parce que je ne veux pas ou je ne peux pas racheter un véhicule fortement malusé. Et donc, on va aller à l'encontre du souhait environnemental, au lieu de renouveler avec des véhicules qui ont fait, on l'a parlé tout à l'heure, d'énormes progrès techniques depuis janvier 2019, des diesels avec la débout, etc. On a des taux d'émission qui sont de particules qui sont très très faibles, et on va laisser vieillir des grosses motorisations parce que on ne pourra pas acheter des véhicules très mal usés. Donc ça va à l'encontre
Philippe, ce qui peut peut-être se passer, je ne sais pas, Fabrice Godefroy, merci beaucoup de votre réaction, Laurent. Merci d'être intervenu et puis d'avoir donné cette idée. Vous voyez, ça fait réagir tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui se poseront la question et vous avez été leur porte-parole. Bravo. Mais concrètement, on risque d'avoir d'ailleurs une hausse des achats avant le 31 décembre, des commandes en tout cas, peut-être, Philippe Fournier, non, ou Fabrice?
Pour moi, ça me paraît évident, mais Philippe a peut-être confirmé.
Des commandes, oui, si tant est que on n'a pas encore, parce que le diable se cache dans les détails, et on en avait parlé avec Fabrice sur d'autres sujets de prime à la conversion, va-t-il y avoir des limites calendaires sur les dates de prise de commande VS les dates de livraison des véhicules et d'immatriculation? Et là, le système part un petit peu en les effets d'aubaine de fin d'année, pourront très bien s'étioler très rapidement.
On verra ça, donc, effectivement.
Je pense qu'il faut analyser plus ce que ça va créer dans la continuité que l'effet d'aubaine ponctuelle de véhicules d'occasion ou d'achat de véhicules neufs déjà immatriculés en décembre. Après, la vraie vie, elle va reprendre. Ouais. Et là, on verra.
Merci beaucoup, Philippe Fournier. Pardon, je rappelle que vous êtes concessionnaire Hyundai à Corbeil-Essonne, dans le sud de l'Essonne, dans le 91, Île-de-France. Une dernière question, en fait, Fabrice Godefroy, c'est quand même un impôt déguisé, là. Enfin, ils ont dit pas d'impôt, pas de hausse d'impôt avec tout ce qui va être Covid, etc.
Apparemment, les taxes ne sont pas des impôts. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on parle de plan de relance sur l'automobile. On nous en a parlé quand même toute l'année, quand même. Mais là, c'est un plan de décroissance qu'on est en train de nous organiser. Hein. Donc, c'est quand même fou. On passe de l'un à l'autre. Bon, franchement, ça va être extrêmement compliqué pour les ventes automobiles l'année prochaine et les années d'après, ça c'est certain. Et surtout les automobilistes. Les automobilistes, c'est eux qui vont payer.
France, Fabrice, quand la voiture tombe, le chômage se ramasse à l'appel, malheureusement.
Bah oui, c'est 11% du PIB.
Alors après, il ne faudra pas se plaindre que des usines soient obligées de fermer, hein. Ça c'est clair. Hein.
On en reparlera parce que c'était un gros sujet qui nous est tombé dessus, ça nous est tombé sur la tête là, cette semaine. On n'est qu'au début de cela, donc on aura évidemment le plaisir de vous inviter de nouveau.
Merci beaucoup.
Parce que j'ai vu que vous aviez plein de choses à nous dire. Et évidemment, c'est encore passé trop vite.
Pas de problème, pas de souci.
On vous invitera de nouveau. Allez, à suivre dans quelques minutes. Pourquoi la gendarmerie a choisi pour ses équipes rapides d'intervention une Seat à la place d'une Renault Mégane RS? Alors, est-ce qu'on marche là aussi sur la tête? Si nos institutions n'achètent pas français, où va-t-on? Bah oui, on vous pose la question.
Alors qu'ils ont tapé dessus.
On en parle avec Sylvain Resser, qui est entre autres journaliste pour Le Figaro et un peu spécialiste de toutes ces questions. Il sera avec nous sur Sud Radio dans quelques instants.
Sud Radio, ça roule.
Et nous parlons maintenant de ce choix qui a été fait par la gendarmerie nationale, qui a choisi pour ses
4 000 plats pour équiper les voitures des forces de l'ordre.
Qui a choisi pour les équipes rapides d'intervention une Seat à la place d'une Renault Mégane. Alors ça nous a tous fait réagir sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu pas mal de réactions. Et on en parlait dernièrement avec Sylvain Resser qui est avec nous. Bonjour Sylvain.
Pierre.
Salut Sylvain. Sylvain, vous êtes entre autres journaliste pour Le Figaro, spécialiste auto. Vous êtes très reconnu dans le milieu de l'automobile parce que vous êtes en plus un pilote hors pair et surtout un écrivain. Et je sais que devrait sortir prochainement, je crois que c'est courant novembre, un très très bel ouvrage de votre main sur le BMW Sport, c'est ça ?
On peut rien vous cacher, Laurence.
Le titre, ce sera...
Elle a triché, il faut dire la vérité, prends le train avec vous aussi.
Alors, c'est tout à fait vrai, mon Pierre, et on va l'assumer. C'est que nous sommes allés tous les deux faire des essais pour la marque Jeep. Et d'ailleurs, on va vous organiser une magnifique émission spéciale en 2021 pour les 80 ans de la marque Jeep. Et nous sortirons des studios, mon Pierre, je peux déjà te le préannoncer puisque je suis en train de l'organiser. Et on va aller même essayer la Willys que toi, t'as jamais conduit la vraie Willys de 41.
Non,
voilà. Donc, on va faire une émission spéciale sur les 80 ans de Jeep, ça va être sympa. Et donc, effectivement, nous étions ensemble dans le TGV qui nous emmenait pour essayer la Jeep. Et Sylvain m'a montré cette histoire de la gendarmerie. Alors là, il faut m'expliquer comment ça se fait que la gendarmerie française n'achète pas français. Sylvain Resser.
Oui, alors en fait, il faut savoir que les appels d'offres sont européens. Donc, quand on lance un appel d'offres, c'est sur l'ensemble des constructeurs européens. Donc là... Concernant la gendarmerie, ils avaient besoin d'un véhicule pour remplacer la Mégane RS, donc une voiture capable de rouler à 250 km/h et d'afficher une puissance de l'ordre de 300 chevaux, et pour un prix quand même assez...
Le malus.
Alors justement, c'est là où il y a eu problème, c'est que... Au départ, la gendarmerie voulait renouveler ses Méganes par de nouvelles Mégane RS, mais en regardant le malus, il s'avère que le malus de la Mégane est à 184 grammes de CO2 par kilomètre. Donc,
mais quel scandale.
En termes de malus, ça donne 5 404 € de malus. Alors, pourquoi ils ont choisi la Seat ? Ben, c'est très simple, la Seat a le même niveau de performance que la Mégane. Eh ben, elle ne rejette que 146 grammes de CO2, c'est-à-dire que c'est uniquement 230 € de malus.
Donc, vous êtes en train de dire, Sylvain Resser, que cette nouvelle loi de finances annoncée par la France a cassé un marché pour la gendarmerie nationale qui aurait pu acheter des Renault RS, faire travailler des usines françaises, à cause de leur malus. C'est dingue.
La Mégane RS n'est pas fabriquée en France, elle est fabriquée en Espagne, mais bon, ça n'empêche que...
Les usines sont en France et Renault paye ses impôts en France.
Non, puis Sylvain, il y a aussi un autre problème, c'est que, on a déjà eu des voitures étrangères, il y avait la Subaru Impreza, mais moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que l'État a fait tout un foin et un pataquès au moment de l'affaire Volkswagen, et que Seat, c'est le groupe Volkswagen.
On est bien d'accord. En même temps, on ne peut pas reprocher à Seat d'avoir des émissions de CO2 meilleures que la Renault Mégane RS. Ça devrait être à Renault de travailler un peu mieux ses moteurs pour... baisser le niveau des émissions de CO2.
Parce que là, franchement, Sylvain, on n'est pas en train de tomber sur la tête avec ces histoires de CO2, franchement.
On est complètement en train de tomber sur la tête et on va encore plus tomber sur la tête parce que les niveaux supérieurs de malus, le niveau le plus élevé qui est actuellement à 20 000 euros, il va passer à 40 000 euros l'année prochaine.
Ouais, c'est sur une Ferrari, on en parlait en première partie. Mais moi, ce que je trouve assez aberrant en plus, c'est que, dites-moi si je dis une bêtise, la gendarmerie, c'est l'armée. L'armée, c'est l'argent public. Oui ou non ?
On est d'accord.
Donc, c'est notre argent public qui va acheter des voitures étrangères. Moi, pour cette histoire de malus, je trouve ça... Alors, on est d'accord que c'était à qualité technique et motorisation. Non, mais c'est dingue.
C'est la raison, Laurence, qui en devient débile. C'est-à-dire qu'on avait l'image, on pouvait redorer un petit peu le blason des voitures françaises à travers ça. Parce que c'est vrai qu'au-delà des quelques voitures qui sont achetées par la gendarmerie, il y a l'image de la marque. C'est comme quand une marque remporte les 24 heures du Mans, ça renvoie une image de fiabilité, de sérieux. Bon, ben là, dans l'état d'esprit de beaucoup, ça sera Renault a perdu face à Seat.
Alors, il faut savoir que ça joue sur une centaine de voitures. Hein, et la gendarmerie a gagné l'appel d'offres pour une durée de 4 ans.
Une centaine de voitures, quoi. C'est quoi le budget total ?
Ah, je l'ai pas, mais...
Pour une Seat, la Seat qu'ils vont acheter, on est aux alentours de combien ?
De 40
000 euros.
Et boum, 400 000 boules, argent public. Dame, ça aurait été... Moi, j'aurais préféré...
Ah non, 4 millions.
4 millions,
ouais. Ah oui, J'ai oublié un zéro. Oh, j'aurais préféré voir ça rentrer dans les caisses de l'État avec Renault. Bon, bref, c'est comme ça. Bah, je vous dis, on marche sur la tête. Allez, on va y aller là. Oh là 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 là.
Ce qu'on aurait pu se dire, c'est pourquoi la gendarmerie nationale, finalement, doit quitter le malus.
Mais ouais, Bon, eh ben merci beaucoup Sylvain Ressert de nous avoir apporté votre regard et de nous avoir un peu éclairé tout cela. Et une fois de plus, hein, ça fait mal à la tête.
À la tête, hein.
Ouais, à la tête. Alouette. Merci beaucoup Sylvain Ressert. Allez, tout de suite, eh ben tiens, on va faire un petit tour de l'actualité de cette semaine avec notre ami Gaspard.
Renault commence à abandonner le diesel. Quel point commun peut-on trouver entre le Renault Arkana et la nouvelle Dacia Sandero, à savoir les deux dernières nouveautés de la marque? Le SUV coupé et la citadine low cost ne proposeront pas de diesel chez nous. Preuve que la dédieselisation du losange est cette fois-ci en marche. La décision a été actée en interne il y a plusieurs années. Un choix pris face à la chute vertigineuse des ventes, notamment à cause de la réglementation de plus en plus stricte. Le fameux projet de loi des finances définissant le budget de l'État pour le prochain exercice est tombé et je peux vous dire qu'il ne fera pas plaisir à votre porte-monnaie. En plus d'un réajustement de la prime à la casse, du bonus écologique et du malus, il faut aussi noter la hausse fiscale sur le samplon 95 E10 qui sera aligné sur les autres carburants. Et vous l'avez compris, si le gouvernement est aujourd'hui capable de revoir à la hausse les taxes sur l'E10, rien ne l'empêche alors, dans le futur, de revoir les réformes, les énormes avantages du bioéthanol. Fini donc les économies. La marque française Opium annonce sa première auto, une berline haut de gamme baptisée Machina, qui offrira un bilan carbone neutre en fonctionnant à l'hydrogène. La machine promet donc 500 chevaux, 1000 km d'autonomie avec un plein en 3 minutes, avec un objectif, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030. Le lancement de la Machina, lui, est prévu pour l'horizon 2026 avec une production française et à destination des principaux marchés mondiaux, Chine, Amérique, Japon et Corée. Derrière ce projet, Olivier Lombard, l'un des plus jeunes vainqueurs des 24 heures du Mans en 2011.
Merci beaucoup Gaspard.
Sud Radio Moto, Jean-Michel Lenné.
Et nous retrouvons notre monsieur moto, c'est Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre et bonjour à tous.
Alors cette semaine, vous nous emmenez du côté des sommets des Alpes.
Exactement, on va prendre un petit peu d'altitude puisqu'on va profiter d'une étape de montagne du Tour de France pour essayer la Yamaha Niken. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le vélo? Eh bien, Yamaha est partenaire de la Grande Boucle en fournissant une armada de Niken utilisée par les photographes pour l'encadrement de la course et même par les médecins de l'assistance médicale d'urgence. C'est dans ce cadre qu'on est parti depuis la concession Team Mondini à Grenoble jusqu'à Méribel, 170 km plus loin.
Alors là, évidemment, il faut que tu envoies le son.
Aujourd'hui, je vous emmène au guidon d'une Yamaha Niken. Alors Niken, vous connaissez peut-être ce que c'est. C'est un peu la MT-09, enfin la Tracer 900 plus exactement, avec ces deux roues à l'avant, vous savez, ce système de parallélogramme. Le train avant de la Niken, c'est très étonnant parce qu'en fait, c'est hyper facile à emmener. On sent pas de poids sur l'avant et puis ça gomme surtout toutes les aspérités de la route. On ressent absolument rien. Alors c'est vrai que c'est un petit peu surprenant quand on vient d'une moto traditionnelle parce qu'on roule sur la moquette du salon un petit peu. Hein. C'est vraiment très très confortable ce petit train avant.
Alors le train avant de cette moto à trois roues a un système à quatre tubes de fourche, deux pour la roue droite et deux pour la roue gauche. Alors contrairement au Tri-City, les tubes de fourche sont à l'extérieur des roues et non pas à l'intérieur des roues. Alors savez-vous pourquoi ?
Peut-être pour une question de stabilité ou d'inclinaison, non ?
Exactement. En écartant les tubes de fourche, notre Niken peut prendre bien plus d'angle que le Tri-City, jusqu'à 45 degrés avec une excellente stabilité. Mais le plus étonnant, c'est la qualité de l'amortissement du train avant qui gomme tout sans aucun mouvement parasite dans le guidon. Et puis, il y a bien sûr le 3 cylindres. Alors, le 3 cylindres dans tout ça.
Après le col de la Madeleine, on va s'attaquer au col de la Lauze. Alors moi, je pédale un petit peu moins. Hein. Je profite d'un 3 cylindres qui, pour sa part, pédale pas mal. Alors le moteur, vous le connaissez. Hein. C'est
celui de la Tracer 900 ou de la MT-09. C'est un moteur qui est très connu, qui ne change pas spécialement, si vous voulez, sur cette Nikon. C'est exactement la même chose, exactement les mêmes performances, les mêmes dimensions, les mêmes critères. C'est le 3 cylindres en ligne de 900 cm3.
847 cm3 précisément pour ce 3 cylindres en ligne de 115 chevaux, assez souple en bas et avec une belle allonge en haut. Et puis, vous l'avez entendu, il y a cette sonorité si particulière qui nous accompagne.
Mais si c'est une moto 3 roues, Jean-Michel, on peut la conduire avec le permis auto ?
Eh bien non, car le train avant n'est pas le même que sur un Tricity 300 accessible au permis auto. Sur le Nikon, le train avant est plus large, il n'est pas homologué comme un tricycle, mais comme une moto. Il faut donc son permis A, voilà. Alors, un mot sur l'équipement de notre Nikon, sur le dernier col hors catégorie.
Voilà, je suis en train de gravir le col de la Lauze et je peux vous dire que ça grimpe. Hein. Oula, moi je suis content d'avoir un petit moteur qui ronronne bien. Et lui, il a pas mal au mollet en fait. Si on parle un petit peu d'équipement là, parce que là on traîne derrière la caravane. Donc, et là, un tableau de bord que vous connaissez déjà, hein, c'est le tableau de bord de la AC900. Voilà. Et puis, niveau protection, la Nikon, le souci, c'est qu'elle a une bulle un petit peu basse. C'est vrai que le carénage est vraiment énorme. Vous allez me dire, il y a une Nikon GT. C'est exact. Vous avez une Nikon GT avec un plus grand, un plus grand confort.
Avec un plus grand confort, avec une selle plus épaisse, des valises et un pare-brise bien plus grand. Alors, le tarif pour finir. La Nikon Yamaha Nikon de base, elle est à 14 999 €. Et la Nikon GT est mieux équipée, mais elle est à 16 299 €. Voilà, c'est tout. Il me reste à vous souhaiter de bonnes balades à deux ou trois roues.
Merci beaucoup Jean-Michel. Passez un bon week-end malgré le temps. Et quant à nous, eh bien, dans quelques instants, le journal évidemment de midi, mais aussi suite la journée sans voiture. C'était dimanche dernier à Paris. Est-ce que vous seriez, vous, pour ou contre une journée sans voiture dans votre ville, quelle que soit la taille de votre commune, vous nous rejoignez ? Est-ce que vous trouvez que c'est un événement intelligent ou c'est juste de la poudre de perlimpinpin pour écolo du dimanche ? Vous nous rejoignez, la voiture, la journée sans voiture, 0826 300 300, venez nous donner votre avis.
Sud Radio, ça roule, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et merci d'être en notre compagnie. Vous êtes bien sûr toujours les bienvenus puisque cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio et bien sûr également intervenir en direct dans notre rendez-vous. Un seul numéro de téléphone à composer, 0826 300 300. À midi 24 à peu près, on fera un point sur le prix des carburants avec notre ami Gaspard. Ont-ils augmenté ou non ? Je vous donne rendez-vous dans une petite vingtaine de minutes pour en savoir plus. Mais tout de suite à cette fameuse journée sans voiture, si cette journée sans voiture devenait une opération nationale dans toutes les villes, les grandes, les petites, les communes de France, au nom de la protection de la planète, seriez-vous prêt à le faire vous aussi dans votre commune ? Eh bien, vous venez nous retrouver pour en parler. Nous évoquerons ce sujet en compagnie de Olivier Blond, qui est président de l'association Respire. Nous allons aussi en parler avec le maire de Vélizy, Villacoublay. Et la question que je vous pose, ces journées sans voiture sont-elles un événement intelligent ou juste de la poudre de perlimpinpin pour écolo du dimanche? Je vous attends au 0826 300 300.
Sud Radio, ça roule.
Et ça roule avec vous, hein, vous le savez, jusqu'à midi et demi, 0826 300 300. Vous nous rejoignez pour participer à ce sujet que nous avons voulu avec Pierre suite à la journée sans voiture qui a eu lieu dimanche dernier sur la ville de Paris et qui t'a, avant même d'accueillir nos invités, Pierre, beaucoup fait réagir.
Ouais, beaucoup fait rire surtout, Laurence, hein, parce qu'en fait, c'était ce qu'on disait, nous, à 40 millions d'automobilistes, et ce que je disais depuis très longtemps. C'est-à-dire que s'il faisait pas beau, il y avait personne dehors. Alors, on m'a répondu, hein, sur la toile, sur Twitter, que j'étais de mauvaise foi, parce qu'en fait, il avait plu, et que c'est normal qu'il y ait personne parce qu'il pleuvait. Mais je rappelle quand même que lorsqu'il pleut, justement, les gens prennent leur voiture et il y a du monde dans la rue parce que les gens sortent. Et que là, la journée sans voiture, c'était la journée sans piéton, c'était la journée du désert, c'était la journée du « il n'y a personne ». Et franchement, je me dis que si on se mettait un jour à nommer Anne Hidalgo, maire de Paris, ministre de l'économie et des finances en France, il n'y aurait plus un copec dans les caisses.
On en parle.
Vraiment, les commerçants, ça a dû C'est dramatique pour eux.
On en parle en tout cas pour cette journée sans voiture avec ce sujet qu'on a voulu ouvert et vous proposer la question suivante. Si jamais cette journée sans voiture devenait un événement national, c'est-à-dire qu'au-delà de Paris, Lyon et Nantes, d'autres communes y passaient, que ce soit petite commune ou même grande commune, et pourquoi pas même d'ailleurs votre village, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bel événement? Est-ce que ça va vraiment, vraiment travailler pour la protection de la planète et de la qualité de l'air? Ou comme je le dis avec un côté très taquin, est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin pour écolo du dimanche? Nos deux invités...
Même pas le dimanche, ils n'étaient pas là.
Bah oui, bah, mais c'est parce que c'était la journée sans voiture, c'est un dimanche, c'est pour ça. Olivier Blond, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'association Respire. Et puis nous sommes également avec Pascal Thévenot, qui est le maire de Vélizy-Villacoublay. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Alors, cette journée sans voiture, Pierre, est-ce qu'on on attaque tout de go? Est-ce que vraiment, Olivier Blond, c'est nécessaire et c'est utile et ça donne des résultats?
En fait, il faut bien comprendre que cette journée sans voiture, c'est une action pédagogique. L'idée, c'est d'essayer de voir comment faire pour se déplacer en ville sans sa voiture, donc à pied, à vélo, à trottinette, enfin comme on veut, en taxi d'ailleurs, puisque ou en bus. Et le but, c'est de changer les comportements et de préparer les gens à justement utiliser moins leur voiture les autres jours, parce que bon, c'est pas en changeant, en interdisant les voitures 6 heures une journée par an qu'on va changer le monde, ça tout le monde le sait. Mais c'est vraiment une opération pédagogique,
Olivier, est-ce qu'on n'a pas vu les limites finalement de la journée ou des journées sans voiture? C'est-à-dire que quand la météo est mauvaise, quand il y a des jours où on a besoin de notre auto pour se déplacer, eh bien ça marche pas. Je me mets à la place aussi du maire de Vélizy-Villacoublay, l'ami Pascal Thévenot. Il faut expliquer comment est placée la ville de Vélizy-Villacoublay, tout en haut de la côte. C'est-à-dire en haut d'une côte où, franchement, à part le vainqueur du Tour de France...
T'exagères.
Non mais,
tout en haut de la côte, ça dépend d'où tu pars, mon Pierrot. Si tu pars de Pont-de-Sèvres, évidemment, t'es tout en haut de la côte. Mais si t'arrives...
Il a presque raison parce que je suis sur un plateau. Donc,
c'est vrai.
J'ai des côtes un peu partout.
Mais quel rapport?
Du vélo électrique, donc ça, on peut...
Non mais en fait la question c'est ça, c'est est-ce que vous le feriez sur Vélizy-Villacoublay? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable dans le symbole?
En fait, une ville sans voiture, je pense que c'est purement dogmatique et que la ville en tant que telle, un quartier, ça peut être intéressant, ça peut se faire. Moi je le fais en fait par exemple tous les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires sur mes voies qui sont en lisière de forêt et qui desservent différents quartiers pour donner en fait un espace public aux familles en toute sécurité. Mais je le fais pendant les vacances et déjà c'est pas obligatoirement facile, hein. J'ai des riverains qui peuvent râler, mais on pourrait l'imaginer dans un quartier sur un secteur particulier, mais mettre toute une ville, même si je suis sans être sur un plateau. Je pense que le dogme, en fait, tue la bonne idée et ça ne m'empêche pas, à côté de ça, de développer des pistes cyclables, de mettre des vélos électriques à disposition de mon personnel. J'ai même une directrice qui n'a pas de véhicule de fonction voiture, mais qui a un vélo de fonction électrique. Donc là, je pense que la collectivité, mon rôle, c'est d'amener... l'environnement à être le plus accessible aux piétons et vélos.
Mais
à
Pascal,
aucun moment,
quelqu'un
est confronté la voiture, le véhicule n'est pas un ennemi. Il doit s'intégrer.
Pascal, toi, tu as dans ta ville, tu as IKEA, notamment IKEA Cuisine.
Alors, il n'y a pas que ça, mon Pierre. Attention.
Non mais pour aller
dans ton sens, c'est qu'il y a trois énormes centres commerciaux.
Non mais Lolo, pourquoi je dis IKEA? Parce que IKEA, je crois que de mémoire, c'est ouvert le dimanche.
Tous les centres commerciaux, Villacoublay est ouvert aussi le dimanche. C'est pour ça que je me permettais d'aller dans ton
sens. D'accord.
C'est que les centres commerciaux de Vélizy-Villacoublay sont ouverts 7 jours sur 7, pardon.
Je me mets à la place du Parisien qui a décidé de changer sa cuisine, qui veut aller à Vélizy pour profiter du centre commercial, d'accessoires, d'IKEA, de tout ce qu'on veut. Comment le Parisien peut? En revanche, l'habitant de Vélizy qui voulait entrer dans Paris à la journée sans voiture, c'était impossible. Le périphérique était saturé.
Mais en fait, c'était même pire que ça. C'est qu'en fait, on exclut une partie de la population à partir de toute une ville. Moi, je l'ai eu. Le week-end dernier, tous les ans, j'emmène 200 personnes pour raviver la flamme à l'Arc de Triomphe. Ça devait être dimanche dernier. Mes scolaires, il n'y avait pas de problème. Mes anciens combattants, c'était impossible de leur faire aller à pied, même si je pouvais m'approcher à l'arrière-porte Dauphine. Donc j'ai dû annuler. Ce qui montre bien que en faisant ça, et ça va avoir lieu dimanche prochain, demain, mais en faisant ça, on exclut aussi une partie de la population. Donc il faut que ça soit fait en accompagnement et de manière incitative. Et moi, j'ai de plus en plus de gens qui prennent le vélo parce que j'incite à faire en sorte que la ville soit sécurisée pour les vélos. Mais j'ai aussi des gens qui viennent en voiture. J'ai et les gens vont prendre de toute façon le moyen le plus pertinent au bon moment.
Il y a un moment
sur la voiture, il y a un moment sur le piéton.
Du bon sens. Olivier Blon de l'association Respire, vous applaudissez.
Pierre, juste, on va écouter Olivier, mais après on a Robert qui nous appelle de Toulouse et qui patiente. Olivier.
Oui, bah bien sûr qu'on est d'accord pour dire qu'il faut laisser une place à la voiture quand c'est nécessaire, mais qu'il faut développer les autres moyens de déplacement. Et en fait, le dogmatisme, en fait, je crois que c'est vous qui le créez, parce que en tout cas chez les écolos que je connais, personne ne dit qu'il faut interdire toutes les voitures tout le temps et qu'il faut faire la guerre aux voitures. C'est pas non. En tout cas,
il faut faire la guerre aux voitures. Non. Denis Baupin, maire adjoint de Bertrand Delanoë à l'époque.
Enfin, il y a 10 ans, il n'est plus dans le circuit. Honnêtement, c'est pas vrai. Si on caricature ses ennemis, après c'est facile de trouver qu'ils sont ridicules. Mais nous aujourd'hui, en tout cas, nous, les écolos que je connais et moi, Respire, on n'est pas pour tuer tous les automobilistes. Enfin, faut arrêter. Au contraire, on dit qu'il faut des voitures, mais il faut peut-être un petit peu moins de voitures. Il faut encourager les alternatives, il faut faire ça de manière bienveillante, comme le dit le ver de Vézi, il faut trouver des équilibres et de la place pour chacun, mais justement, il faut de la place pour chacun.
Olivier, juste, on va accueillir Robert qui patiente de Toulouse au 0826 300 300, mais je l'ai dit en tout début d'émission de Ça roule, il y a eu quand même, vous allez me dire, c'est un exemple évidemment, et nous on tombe dessus, mais on trouve ça tellement aberrant, de cette femme qui a été coincée dans son ascenseur pendant plus de 2 heures, le dépanneur arrivait et on lui a interdit l'accès à la zone parce qu'il arrivait en voiture. Il y a un moment, la symbolique...
C'est absurde parce que normalement, les véhicules d'urgence sont autorisés
c'est pas un véhicule d'urgence, c'était un dépanneur. C'est plus qu'une erreur. C'est qu'il y a un moment, au nom de la pollution ou de l'antipollution ou de l'écologie, on en arrive à des aberrations. C'est qu'à un moment, remettons les pieds sur terre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
C'est pas une aberration, c'est une erreur. Effectivement, il faut que les gens puissent arriver.
C'est plus qu'une erreur, c'est une aberration quand les gens...
Il n'était pas prévu dans les dérogations.
On te perd, mon Pierre.
C'est pas prévu dans les dérogations. C'est une bêtise et je suis poli. Hein.
Ouais. En tout cas, voilà. Donc là, il y a un moment, il faut arrêter les. Et je suis poli aussi. Robert de Toulouse est avec nous, 0826 300 300. Bonjour, Robert.
Bonjour. En tout cas, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une aberration. On arrive. C'est même plus du dogmatisme, mais moi, j'appelle ça un gadget parisien. Pour faire parler de soi.
À Nantes aussi, à Lyon aussi. Hein.
Oui,
attention.
Oui. D'accord, mais on oublie une chose, c'est qu'au départ, c'est pour polluer moins. Et pour polluer moins, qu'est-ce qu'on fait? On finance l'achat de nouvelles voitures, on les met à la casse. Et est-ce qu'on se représente en mettant à la casse combien on fait de pertes de CO2 pour refaire une voiture, alors qu'on pourrait très bien imaginer de refaire des moteurs adaptés, parce que vous avez énormément de véhicules, et croyez-moi que beaucoup de gens que je connais ont donné leur voiture à la casse pour acheter une nouvelle, mais disaient, après tout, celle-là aurait pu faire beaucoup plus de kilomètres. Mais qu'est-ce qui nous empêchait de faire des adaptations et de financer une partie de ces adaptations, au lieu de donner des primes à tire-larigot, de financer une partie de ces adaptations par des moteurs modernes ou électriques qui consomment moins? Qu'est-ce qui nous empêchait? Et peut-être qu'à ce moment-là, les quantités de CO2 lâchées dans l'atmosphère auraient réellement baissé. Réellement baissé.
N'oublions pas qu'on représente... Salut, Robert.
Oui, Robert, n'oublions pas qu'on représente 1%, 1% de la valeur mondiale de CO2. 1%, on l'oublie. Et je crois que c'est 10 idéologues là, qui veulent à tout prix inculquer parce que il y a une partie
imposée,
tout douce et après une partie imposée, ce qui est tout à fait irritant.
Pierre.
Oui, alors n'oubliez pas, Robert, la France, Robert, la France, c'est peut-être 1% des émissions globales à l'échelle de la planète, mais c'est normal qu'on soit que 1%, puisqu'en fait, les produits qu'on achète, ils sont fabriqués en dehors de la France. Donc nous, on achète ce que les autres...
Il faudrait peut-être se pencher sur le transport de ces produits, monsieur, mais je vois que pour le moment, comme ça dérange beaucoup de personnes et beaucoup de capitaux, on s'y penche pas.
Robert, pour revenir,
vous parlez en même temps que moi, je parle en même temps que vous.
Mais non, je risque pas. Robert, je suis pas contre vous. Robert, je suis juste en train de vous dire que je voudrais revenir au sujet principal, qui était l'arrivée d'une journée sans voiture. Est-ce que vous, dans votre ville, vous seriez d'accord?
Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on attend pour faire une taxe à l'entrée? À l'entrée, en vertu du CO2 qui a été dépensé. Qu'est-ce qu'on attend?
Comme fait Londres.
Une taxe à l'entrée des villes?
Bah, ce que fait Londres,
non,
en fait.
Non, à l'entrée des pays. À l'entrée de l'Union européenne,
pour le CO2.
Qu'est-ce qu'on attend?
Oui. Effectivement. Alors ça, c'est alors ce que je propose, parce que c'est un vrai sujet du coup que nous propose notre ami Robert, et c'est quelque chose qu'on pourra faire dans une émission entre autres de Ça roule concrètement. Et à ce moment-là, je vous proposerai, Robert, de vous rappeler, parce qu'effectivement, je trouve que la façon dont vous amenez les choses et cette ouverture sur un sujet encore beaucoup plus grand, voilà, est plus qu'intéressante. Robert, merci beaucoup. Je suis obligée d'accélérer un petit peu le mouvement parce qu'on a encore d'autres personnes qui attendent au standard. Mais merci beaucoup, Robert, et on vous appellera quand on traitera ce sujet de voilà le poids de la France en termes de CO2 dans la pollution mondiale. Et vous voyez, Olivier Blond de Respire, les Français ont du mal aussi à comprendre toute cette politique et tout ce qu'on nous impose comme événement, qu'il soit juste ou pas, parce que en fait ça dépasse l'entendement des fois. Vous voyez ce qu'on veut dire?
Enfin, juste pour revenir à cette remarque là de Robert, il est déjà possible, il y a des entreprises qui proposent de changer le moteur de vieux véhicules, des moteurs thermiques en véhicules en moteur électrique.
Olivier,
c'est pas un flou international, ça existe, c'est pas simple.
Écoutez,
mais ça existe.
Et c'est cher. Attendez, c'est pas accessible.
C'est moins cher que d'acheter une voiture.
C'est pas accessible à tout le monde quand même.
Oui, mais enfin.
Non, mais quand même.
C'est possible.
Et puis, avec la voiture, vous mettez un moteur électrique, vous avez 300 km à faire, vous mettez 25 heures. Enfin, il y a un moment.
25 heures?
Bah, évidemment, il n'y a pas encore toutes les bornes.
Il y
a le temps de charge, il n'y a pas toutes les bornes encore sur le maillage français. On n'est pas contre, mais il y a un moment...
Alors, j'en ai entendu une, Laurence, accroche-toi bien. Les écologistes sont défavorables aux grosses batteries électriques dans les voitures. Ils veulent des toutes petites batteries pour qu'on fasse peu de kilomètres. Eh bien oui, sauf que du coup, quand on est défavorable à l'arrivée de grosses batteries dans la voiture, ben, ça ne marche pas. Parce que moi, ce qui m'a gêné sur l'interdiction et sur la journée sans voiture, c'est que je le rappelle, c'était aucune voiture. Ce n'est pas le pragmatisme de Pascal Thévenot à Vélizy, comme dans beaucoup de communes, qui dit « moi, je mets des quartiers dans lesquels on peut circuler à pied ou à vélo et ça, c'est bien ». Et d'ailleurs, il a du mal vis-à-vis des gens parce qu'il y a des riverains. Imaginez-vous, Olivier Blond, que là, on avait des Parisiens qui ne pouvaient peut-être pas sortir de Paris. Et pire, on avait des banlieusards ou même des gens de province qui n'ont pas pu aller se faire un petit théâtre, une petite bêtise, un spectacle, parce que cette journée sans voiture tuait l'économie. D'ailleurs, on a vu, Olivier, il n'y avait personne dans les rues.
Par contre, j'enclave, là, c'est Pascal Thévenot, j'enclave, enfin, je ferme des rues, mais je n'enclave personne. Tout le monde peut retrouver sa voiture. Après, je pense que le débat, il faudrait le mettre, on parle des écologistes, des maires écologistes. Moi, je suis vu comme un maire écologiste, sauf que je suis pas écolo avec une identité politique. Les maires écologistes aujourd'hui, tels qu'on les voit à Lyon, à Nantes,
à Bordeaux,
ne font pas de l'écologie. Et moi, les écologistes, chez moi, ils ont voté contre les certificats de CE2E que pouvait avoir la ville, ils ont voté contre la géothermie. Les écologistes ne font pas d'écologie. Les vrais maires écologistes, en fait, tout le monde doit avoir une sensibilité écologiste. Et ça ne m'empêche pas de fermer des rues pour les Roms à la famille, mais qui n'enclavent personne et qui ont un intérêt de loisirs et qui sont donc utilisés. J'ai des bornes électriques, elles sont même gratuites dans la zone d'habitation parce que je suis en zone collective. Et que si je veux que les gens puissent avoir des véhicules électriques, il faut qu'ils puissent les recharger, même quand ils sont dans un appartement. Et on accompagne tout ça. Et je fais de la géothermie pour le chauffage urbain.
Mais ce n'est
pas un dogme. Et
Pascal,
je ne suis pas élevé. Le maire écologiste, il est pas, je pense qu'il n'est surtout pas élevé parce qu'il ne fait pas de dogme.
Pascal Thévenot, peut-être que... Alors, bravo, parce qu'a priori, vu d'ici, je dis bien entendu d'ici de ce que vous nous expliquez sur Vélizy, Villacoublay, du coup, c'est très bien. On va juste peut-être aussi rappeler, c'est pas du tout une critique, et loin de là. Et moi, j'adore aller dans votre centre commercial qui ne s'appelle plus Vélizy 2. J'adore aller à Villa Coublet, j'adore tout ça. Mais vous avez aussi des rentrées financières dues à l'implantation d'industries et de boîtes d'entreprises sur votre, oui. Sur votre commune, qui permet à votre ville d'avoir un budget qui permet aussi de faire tout ça. Ce qui n'est pas le cas de toutes les villes de France. Mais c'est pas une critique, hein. Mais c'était peut-être juste aussi expliquer qu'on a ou non des fois les moyens de faire des choses un peu intelligentes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Non, pas pour ça. Parce que gérer des pistes cyclables, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est financé en grande partie par la région.
Mais toutes les bornes électriques, tout ça, voilà, c'est quand même pas...
Les bornes électriques, j'ai un modèle économique, c'est une société qui m'a transformé mes autolibres gratuitement. Et... après, on a passé un deal et ça m'a, ça m'a coûté en fait l'installation au début, mais je l'avais déjà avec Autolib.
En tout cas, c'est intelligent.
C'est pas les. Mes boîtes, elles me permettent d'avoir des crèches, d'avoir des centres sportifs.
Oui, oui, non, c'est vrai.
Ça coûte de l'argent.
Oui, vous avez...
Mais l'environnement, ça coûte pas obligatoirement cher.
Si c'est bien fait.
Ouais. C'est pas.
Pascal, excusez-moi de vous couper la parole. On a Jean-Paul qui attend depuis le début de ce sujet, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Jean-Paul et pardon d'avoir autant tardé.
Vous êtes pardonné, madame. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs. Oui, journée sans voiture, pourquoi pas, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je vais faire les courses, je prends du vélo tranquille. Voilà, je prends une flotte et puis voilà, mais le problème, c'est qu'en France, c'est que le monde est bien chaud. Donc, pour arriver à que tout le monde accorde ses violences, c'est compliqué. Voilà, moi, honnêtement, le temps que je me prenne la tête avec la voiture en ville, honnêtement, des fois, je me promène en ville avec un vélo. Je me dis, putain, c'est beaucoup plus tranquille, tu te prends moins la tête. Et honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Avant de critiquer, il faut essayer. Bordeaux, Toulouse, en vélo, putain, je dis, c'est hyper tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prise de tête. Pas
quand on peut.
Voilà.
Quand on peut. Pas tout le monde.
Oui, d'accord, mais quand on peut, c'est sûr. Après, je vais vous dire, si on a un rendez-vous, on peut y aller en vélo, il faut qu'on se pointe, mettons une heure avant, qu'on prévoie un petit peu. Voilà, mais bon, je vais me prendre la tête en ville, les bouchons, les cils et ça. Honnêtement, bon, c'est bon, je prends le vélo. Hein.
En tout cas, Jean-Paul, vous aviez aussi la parole. Bah, c'est bien aussi d'avoir l'autre côté du visage. Le mot de la fin, Olivier Blond, parce qu'on ne vous a pas laissé beaucoup parler, tout pardon.
Le mot de la fin, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas être caricatural et il y a plein d'initiatives qui se passent. Aujourd'hui, la mobilité, elle se transforme à très grande vitesse, que ce soit par l'électrique, que ce soit par le vélo à l'assistance, que ce soit par rapport à toutes les choses qui se passent dans toutes les villes. Il faut le faire en écoutant l'autre, en essayant de laisser à chacun sa place et en évitant, à mon avis, les caricatures parce que ça fait avancer personne.
Olivier, est-ce que le mot « journée sans voiture » n'est pas déjà la première caricature?
Mais c'est une symbolique, c'est même pas une journée, c'est quelques heures, c'est même pas sans voiture, puisque vous savez qu'il y a les taxis, les bus, etc. etc.
Oui, mais...
Donc vous vous braquez sur deux, trois mots, et après ça vous permet de dérouler un argumentaire qui n'est pas du tout rigoureux.
Moi je ne suis pas d'accord avec vous, Olivier. Il faut
écouter les choses.
Moi je ne suis pas d'accord
avec vous. Il y a des gens qui sont très contents.
Celui qui s'énerve, c'est vous.
Mais oui, je m'énerve parce que là, vous, depuis une demi-heure, vous ne faites que dire des choses hyper agressives contre une initiative qui vit à protéger les gens, à essayer de mieux vivre ensemble.
Alors, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas spécialement.
Oui, c'est très énervant.
Eh ben merci Olivier Blond d'être intervenu
merci
d'avoir dit oui à cette invitation. Et je sais qu'il y en aura d'autres qui arriveront, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est bien de débattre.
Quand on lui dit que c'est caricatural la journée
tout
sans voiture.
Tout de suite, le carburant de Gaspard.
Sud Radio, ça roule, la minute qui carbure.
Et mauvaise nouvelle cette semaine puisque ça augmente pour tout le monde. Le sans-plomb 98 prend plus 0,3 centimes, 1,41€ le litre en moyenne. Le sans-plomb 95 plus 0,5 centimes, 1,34€ de moyenne. Et le sans-plomb 95 E10 plus 0,2 centimes, 1,32€ en moyenne. Il n'y a que le gazole qui, lui, ne bouge pas.
Merci beaucoup mon Gaspard, eh bien c'était une émission bien passionnante en tout cas, merci d'avoir été avec nous, merci mon Pierrot, bon week-end.
Bon week-end, et je te rappelle quand même que 87% des Français ont pris leur voiture pour partir en vacances, donc j'ai envie de dire que la journée sans voiture, c'est aussi la journée sans vacances, hein, si on l'étendait à toute la France.
Allez, on vous souhaite un super week-end. À suivre, c'est Invino, l'équipe d'Alain Marty et des passionnés comme nous, des bons vins et de ceux qui le font avec modération. Bon week-end.